Plus a devancé la série indienne Aria, l'émission chilienne El Presidente et le programme britannique There She Goes dans la catégorie meilleure fiction. Succès israélien à l'ONU avec l'adoption d'un projet présenté par l'ambassadeur Gilad Erdan. Ce programme propose l'emploi de technologies agricoles ultra-modernes dans les pays en voie de développement et principalement dans les zones où règne la sécheresse ou encore la famine. Sachez également qu'Israël va moderniser l'armée des Philippines, qu'il y a dans la foulée des accords d'Abraham une première coopération humanitaire entre Israël et l'émirat du Bahreïn. L'Institut du monde arabe à Paris poursuit sa trilogie consacrée aux religions monothéistes dans le monde arabe avec une expo exceptionnelle dédiée à l'histoire des communautés juives d'Orient. Avec la reprise du tourisme de masse depuis l'été dernier, le Portugal redevient une destination privilégiée des jeunes adeptes du tourisme festif, tout comme pour des retraités amateurs d'exotisme et de dépaysement tranquille et chaleureux. Berceau du judaïsme séfarade, le Portugal attire aussi un tourisme mémoriel juif. Une lettre d'Albert Einstein à propos de l'antisémitisme américain a été mise aux enchères. Je vous parlerai également, et nous irons à Paris, des gratte-ciels oublié de la Muette, cinq tours symboles de la cité, puis du camp de Drancy. Une exposition entre histoire et architecture. Cela se tient au mémorial de la Shoah de Drancy jusqu'au 6 mars. Alors, puisque dimanche soir, nous allumerons la première bougie de Hanouka et qu'il est de coutume de s'offrir des petits cadeaux, je vous parlerai de deux livres. L'amour, le ghetto et le kibbutz, Visa pour l'éternité par Laurence Cucchio aux éditions Albin Michel et Un kibbutz en Corrèze par Jean-Luc Aubarbier aux éditions Terre de France. Alors voilà pour le menu et maintenant il est temps bien sûr de recevoir notre invité, chers auditeurs, en compagnie de ce dernier, Monsieur Daniel Hansens de la Comédie de Bruxelles. Nous allons aujourd'hui parler théâtre et plus particulièrement d'une pièce, une comédie intitulée « Venise sous la neige » qui se jouera à la fois au Centre culturel de Dergheim et au Centre culturel d'Uccle avec une soirée exceptionnelle au profit du personnel soignant qui le mérite ô combien. Ce sera pour le 21 décembre à Uccle, donc on y reviendra. Merci Daniel Hansens d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais pour commencer que vous nous retraciez votre parcours pour les auditeurs qui pourraient encore l'ignorer. Alors, Daniel Hansens, comment en êtes-vous venu au théâtre ?
Bonjour. D'abord, c'est de la passion. Je pense que depuis que j'avais 6-7 ans, j'ai toujours voulu faire ce métier. Je n'ai pas voulu faire autre chose. Si, peut-être médecin, comme mon père, mais j'ai décidé de faire du théâtre. J'ai été captivé par le Napoléon d'Abel Gance qui était passé à la télévision, un film muet qui durait 3 heures. Je suis resté là tout le temps et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors, malgré mes frères et sœurs qui sont tous dans des métiers qu'on dit honorables, puisqu'il y avait...
Un médecin, avocat,
juge et tout. Et moi, tout d'un coup, je veux faire le théâtre. Tout le monde rigolait beaucoup. Mais voilà. Donc, il faut vivre ses rêves et se donner tout ce qu'il faut pour vivre ses rêves. Et encore maintenant, et surtout maintenant. Et donc, c'est ce que j'inculque à mes enfants. Je dis, vivez vos rêves. Quels qu'ils soient, vivez vos rêves. Et donc, c'est ce que je fais. Je continue à le faire. Et puis voilà. Après, j'ai fait le conservatoire, comme beaucoup de comédiens. Et puis, j'ai eu la chance de travailler tout de suite, de travailler beaucoup. Je fais parmi les hommes chanceux, je veux dire les acteurs chanceux de ce métier, qui vivent de leur métier, pas toujours facilement, mais qui vivent de leur métier. Donc voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre et c'est un métier magnifique, quoi. Voilà, je suis heureux de le faire.
Le monde culturel, Daniel Hansens, traverse une période extrêmement difficile, avec encore aujourd'hui un futur très incertain, dû bien sûr à la pandémie. Alors comment faites-vous pour garder le moral, il semble que vous l'avez, et celui de vos comédiens, car comme l'on dit, il faut bien payer son loyer.
Mais alors, d'abord je suis l'importance à la Comédie de Bruxelles, mais d'abord avant tout, puisque c'est moi qui la gère, c'est l'humanité. L'humain, pour moi, est au centre. Et je vais dire aussi un mot peut-être qui est très large, mais l'amour. L'amour avant tout. Ça, c'est ce qui me guide, d'abord de mes enfants, l'amour des autres, et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important et fondamental. Et donc, l'amour ne peut que nous rendre positifs tout le temps. C'est d'y croire. Je suis un optimiste né, malgré les grandes choses qui me sont arrivées dans la vie, très tristes, très malheureuses, vraiment, j'ai pas été épargné, mais je garde un espoir, toujours. Ça ne sert à rien, de toute façon, je ne vais pas commencer à me stresser ou à vivre, à être malheureux pour des choses qui n'existent pas encore. Et ce qui est passé, eh bien, est passé. Je dois être dans le présent. C'est compliqué, mais voilà. Ici, ben, c'est vrai que la situation est vraiment très compliquée, vraiment anxiogène. Et ça, je trouve que c'est un tort un peu des médias et du gouvernement de nous donner ce sentiment anxiogène en permanence, plutôt que de dire, écoutez, les choses avancent, mais nous devons encore vigilants, plutôt que de dire, ah, vous n'avez pas fait ça, on va vous sanctionner. Ça me dépasse et ça m'énerve parce que ça fait peur à tout le monde. Alors, il y a des problèmes, il y a des gens qui sont hospitalisés. Il est évident qu'il faut être prudent, qu'il faut être vigilant, mais surtout, il ne faut pas oublier de vivre. Ça, c'est le plus important. Et en faisant du théâtre, c'est une façon de vivre et de donner aux gens une possibilité de se distraire, de sortir de leur quotidien. Et c'est ce qui se passe puisque la pièce, nous l'avons déjà commencé en tournée en Belgique. Et tous les soirs, les gens que je croise, parce que je vais voir tous les soirs les représentations, me disent, mais qu'est-ce que ça fait du bien dans cette période? Ça nous soulage tellement. Ils rient tellement dans cette pièce. Moi aussi, ça me fait du bien de les entendre rire parce qu'on retrouve enfin le parcours du public. Mais je constate que ces décisions et peut-être ces proches décisions sont toujours anxiogènes. C'est toujours, attention, ça c'est catastrophe. Oui, ok, c'est une catastrophe, mais faire pléonasme avec la catastrophe ne va pas aider. Nous devons prendre conscience des choses, mais nous devons avancer et nous devons continuer à vivre. Ça, c'est le plus important. Donc, je demande aux gens de venir au théâtre, de ne pas avoir peur.
Mais justement, ma prochaine question concernera la culture, qui est un pilier, mais pas le seul, mais un pilier essentiel dans notre vie. Hélas, aujourd'hui, il semble qu'il risque de ne plus apparaître comme cela, parce que justement, les gens ont des craintes. Ouais. D'autres priorités émergent. Alors, comment faire pour conserver cet axe prioritaire qui est un délassement, mais pas que.
Mais
la culture va au-delà.
Oui, bien sûr que la culture va au-delà. Vous savez, quand parfois on se pose des questions, on se met en doute, on se dit, tiens, pourquoi je fais ce métier? Est-ce que j'ai bien raison d'avoir fait ce métier et tout et tout. Quand je voyais mon père médecin, je dis, il aide tellement de gens, tellement de personnes, il sauve des vies. Et puis, un jour, quelqu'un est venu me trouver après un spectacle et il m'a dit, monsieur, j'ai perdu ma femme il y a 10 ans et pour la première fois de ma vie, depuis 10 ans, j'ai ri de nouveau. Et j'ai tout oublié. Merci pour ça. Et je me suis dit, ben voilà, comme on disait mon père, moi je guéris les corps, toi tu guéris les âmes. Et donc c'est
complémentaire.
On devrait être remboursé par la mutuelle d'ailleurs, je trouve. mais je pense que oui, c'est en plus par rapport au lieu, le théâtre n'est absolument pas un vecteur de la pandémie. Et donc ça a été prouvé, reprouvé. Il y a eu des tests qui ont été faits, il y a des choses. Et malgré tout, ils continuent à dire oui, mais attention, on va peut-être fermer, on va peut-être faire ceci, faire ça. Et donc ça fait peur aux gens. Les gens ont peur de réserver. Ce qui est très surprenant, c'est de voir par exemple que ce spectacle, c'est qu'en tournée, partout où on va, c'est plein, mais vraiment plein. À Bruxelles, les gens ont peur. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette différence entre la province et Bruxelles. Pourquoi est-ce que les gens ont plus peur à Bruxelles qu'autre part? Alors que vraiment en tournée, les salles de 600, 700, 800 places sont pleines à craquer. Et je trouve ça extraordinaire. Et ici, il y a plus de difficultés. Donc je ne l'explique pas encore, mais oui, là, une peur peut-être plus des Bruxellois, je n'en sais rien.
Oui, alors que les bus et les trams sont pleins. Et là,
oui, oui, et Nathan Klumek, qui est quand même pas le dernier des imbéciles, non. À un moment nous a dit depuis le début de la pandémie, on ne devrait pas fermer la culture, à moins que quelqu'un ait la Covid, qu'il le sache, et qu'il se dise, je vais aller au théâtre, j'arrache mon masque, j'arrache le masque de mon voisin, et je lui crache à la figure, eh bien, il n'y a aucune possibilité de transmission. Donc, il faut pouvoir aller au théâtre, il faudrait que le gouvernement, que les médias aient ce discours-là. Il y a des endroits qui sont safe.
Alors Daniel Hansen, venons-en précisément à votre pièce Venise sous la neige. Pourquoi selon vous faudrait-il se précipiter à aller applaudir cette pièce? Mais surtout de quoi parle-t-elle?
Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait y aller? Parce que j'entends tous les gens, tous les spectateurs, tous les soirs rire autant. Rien que ça, je devrais l'enregistrer. Eh bien, vous courriez au théâtre, parce que vraiment. Alors, Venise sous la neige est une très très bonne pièce. C'est l'histoire d'un couple qui invite un ami qu'il a croisé dans la rue le matin, en disant "Mais viens manger. Ça fait 15 ans qu'on s'est plus vu. Viens manger à la maison ce soir." Et il dit "Ah, ben je vais venir avec ma compagne." Malheureusement, sa compagne n'a aucune envie d'aller à ce repas. Ils sont en pleine dispute, et donc elle décide de ne rien dire. Elle boude. Elle arrive à cette soirée, elle boude et ne dit rien. Et le fait est, c'est qu'à un moment, le couple se dit, ben, peut-être qu'elle est étrangère et qu'elle ne parle pas français. Après, je vais vous laisser découvrir, parce que ce qui déboule de là est énorme, énorme, énorme. Ça va jusqu'au bout et ça ne fait que empirer. C'est un dîner qui vole en mille éclats. C'est vraiment un dîner très, très, très drôle auquel on assiste.
C'est pas comme le dîner de cons.
Non, mais il y a des choses qui peuvent s'apparenter à ça. Oui, oui, il y a des choses qui peuvent s'apparenter à ça. Et c'est aussi un regard sur le, justement, peut-être le comment on regarde, comment est-ce qu'on regarde l'autre, comment est-ce qu'on regarde l'étranger, puisqu'ils le prennent pour un étranger, comment est-ce qu'ils le voient, comment ils le regardent. C'est aussi une pièce sur l'amour. On voit des couples qui se font et qui se défont. Donc, c'est des choses qui sont vraiment... C'est une belle pièce, très bien écrite et très riche et vraiment très drôle. Vraiment, le spectacle des fêtes que je conseille à tout le monde.
Mais c'est un peu d'actualité, parce que quand on voit ce qui se passe avec les migrants, qui sont des étrangers, qu'on pourrait quand même intégrer... C'est une volonté, voilà.
Tout à fait. Mais vous verrez, c'est une pièce très, 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 très drôle qui touche tout ça.
Alors, j'en ai parlé en début d'émission... Il y a une soirée exceptionnelle dédiée au personnel soignant. Alors, je voudrais que vous nous en parliez parce que le personnel soignant était vraiment sur le pont, pas était, et toujours.
Ouais. En fait, compte le 21 décembre, au Centre culturel Duc, on organise une soirée au profit du personnel soignant où on a contacté tous les hôpitaux de Bruxelles et alentour pour leur offrir cette soirée. C'est vrai que moi, on les a applaudis pendant des mois, on les a remerciés, et puis ça s'est arrêté. Alors qu'ils vivent, ils sont toujours au front, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas aidés, même malgré certaines promesses qui ont été faites. Ils sont toujours là, j'en côtoie plusieurs, et je me rends compte que c'est vraiment très très difficile, et je les remercie tellement. Et c'est vrai que je me dis, comment je peux faire pour les remercier? Donc je me suis dit, dans mon domaine, je vais leur offrir une soirée complète où ils viennent gratuitement au théâtre, ils s'installent, ils ont un verre, ils regardent le spectacle, et voilà, ils se détendent pendant une soirée. Donc ici, on est déjà à plus ou moins 600. Bon, il est évident que ça coûte de l'argent, donc j'ai demandé de l'aide à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la loterie, j'ai demandé, voilà, pour voir, ça rentre dans leur truc. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. Et à côté de ça, nous avons créé ce qu'est le ticket suspendu, le ticket solidaire. C'est-à-dire que les spectateurs, ou même d'autres personnes, peuvent, via la Comédie de Bruxelles, le site, réserver une place pour eux. Donc leur offrir une place, une façon de les remercier, parce que plusieurs personnes m'ont dit, mais comment moi je pourrais faire pour les remercier? J'ai dit, mais non, en leur offrant une place. Donc ils viennent, ils achètent une place pour eux.
Qui est à 40 euros, je
c'est
crois.
Ça, voilà, 40 euros pour pouvoir ça. Ça nous permet juste de payer les acteurs et de payer le lieu. Et tout bénéfice de ça, évidemment, je ne suis pas là pour garder un centime pour me faire de l'argent ou quoi que ce soit là-dessus, certainement pas. Tous les bénéfices iront à une œuvre qui est en rapport avec le personnel soignant qui en a grandement besoin. Donc c'est vraiment, c'est pour eux, c'est uniquement pour eux. Moi, je ne sers que d'intermédiaire. Et je les soutiens, je les aide et je les remercierai. Et d'ailleurs, Tiff Barreau est une des marraines de la soirée. Il y en a d'autres à qui j'ai demandé. On verra bien comment, s'ils peuvent le faire et tout, s'ils ont le temps de le faire. Mais donc voilà, c'est une belle soirée qui sera organisée. Il y aura un petit film qui va passer avant avec tous des remerciements de plein de personnes. Et puis voilà, ils auront leur soirée offerte. Voilà.
Et je vois qu'il y a un numéro de téléphone.
02 560 21 21.
Oui, je répète plus lentement. 02 560 21 21.
Et je veux encore dire une chose, si vous me permettez, c'est que il y a cette soirée qui est une soirée exceptionnelle pour cette année-ci, pour cette saison-ci, mais nous organisons depuis maintenant 15 ans, 14 ans, nous organisons une soirée le 24 décembre qui est une soirée spécifique, c'est-à-dire que j'offre la possibilité à tous les gens qui sont isolés et qui n'ont pas les moyens de payer, de venir gratuitement au théâtre. Et c'est une soirée magnifique parce que ces personnes viennent et sont mélangées avec des personnes qui, eux, payent le prix plein. Et donc, c'est vraiment une soirée, une communauté qui se crée, quelque chose qui est magique.
Convivial.
Alors, je suis... On passe par les CPS, on peut appeler directement la Comédie de Bruxelles. Et donc, chaque année, on le fait. C'est une soirée vraiment magique parce que les gens se disent merci. Je n'ai plus passé Noël. Maintenant, ça fait 4 ans qu'il y en a certains qui viennent, d'autres 5 ans. Ils disent,
oui,
ça fait 5 ans.
C'est la soirée du réveillon.
Voilà, je ne passe pas le réveillon tout seul. Donc voilà. Et il n'y en a qu'un seul qui n'est pas content dans l'histoire de ma soirée du 21 et du 24, c'est mon comptable. Puisque je suis une entreprise privée, et donc je n'ai aucune aide, aucun subside, donc je fais tout ça, voilà. Et donc c'est vrai que c'est toujours très risqué. Lui, il devient fou en regardant mes calculs, mais voilà, j'y crois. Et puis je crois qu'un jour, quelqu'un va me dire, je vous soutiens, je vous aide, je vais vous aider, et puis voilà, et puis on verra bien.
Alors, pour terminer, vous le savez, nos décideurs sont en réunion, donc ils vont décider. Ou peut-être décider de ne pas décider, mais
voilà.
Vous comprendriez que la culture soit à nouveau sanctionnée ?
Non, non, mais voilà, maintenant je vois qu'à travers toutes les décisions qu'on a prises depuis le début, ça n'est pas toujours très sensé, très réfléchi, que c'est toujours un peu une responsabilité qu'on donne aux autres en disant nous on ne veut pas, mais si vous voulez, vous pouvez fermer, donc on donne la responsabilité au bourgmestre, on donne un peu de responsabilité. Voilà, c'est toujours un peu, il y a un manque de force et de crédibilité qui est là derrière, et je pense qu'ils sont un peu perdus, mais ça devient un peu dur pour nous, quoi.
Mais ceci dit, c'est vrai que moi, je n'aimerais pas être à la place des décideurs.
Non, mais enfin, ils ont décidé d'être là, ils ont proposé de leur métier d'être là. C'est comme si moi, je vous disais, j'ai décidé d'être acteur, mais je n'aime pas trop être sur le plateau. Ben si, j'assume mon rôle sur le plateau.
Daniel Hansens, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Un grand plaisir. Judaïka.
Je rappelle le titre de votre pièce, Venise sous la neige. J'adore ce titre.
Oh, oui. C'est vrai, c'est très drôle, c'est très drôle.
Donc, qui se jouera à la fois au Centre culturel Ducle.
Et d'Auderghem à partir du 30 novembre jusqu'au 4 décembre, et à partir du 18 décembre jusqu'au 31
décembre. Et avec une soirée dédiée au personnel soignant. Voilà. Et alors, un réveillon de Noël, le 24 décembre.
Exactement.
Merci pour tout ce que vous faites.
Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Bonjour à tout le monde. Au revoir.
Et voilà. Et sachez que vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de Radio Judaïka.
Merci.
Voilà, je vais vous raccompagner, cher ami.
D'accord.
Et en attendant, bien sûr, je vous propose une pause musicale.
אמצא אותך מחר אדם קרוב אצל עצמו, אדם בתוך עצמו הוא גר. אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב אומר הוא, לפעמים הוא שר. לפעמים פותח דלת לקבל מכה. אבל לרוב אדם בתוך עצמו נסגר.
C'était Shalom Khanor avec Adam Betor Atzmo. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après ceci.
Vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière ? Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer. Un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels Photographie, un iMac 24 pouces, un iPhone 13, une initiation au golf des 7 fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetweb.fr/super-tombola-radio-judaïka. Prix du billet 25€, prix d'un carnet 200€. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance!
Et voilà, comme vous le savez sans doute, dimanche soir, nous allumerons la première bougie de Hanouka. Et sachez que la plus grande Hanoukia d'Europe sera allumée. Où ça ? Eh bien, à Berlin, en Allemagne. C'est comme ça, la roue tourne. Alors, il est de coutume à Hanouka de s'offrir de petits cadeaux. Alors, je voudrais vous conseiller deux romans très prenants dont l'intrigue progresse sur le même fond d'époque troublée, l'amour, le ghetto, le kibbutz. Nous sommes dans les années 30. Le nazisme et son idéologie de mort gagnent du terrain. Le premier de ces livres raconte l'histoire d'Ewa, qui fuit la Pologne en 1939 et trouve asile en Lituanie, où elle est prise au piège. À moins que l'ambassade du Japon ne lui accorde un visa. Le second livre débute quelques années auparavant en Corrèze, en France, où de jeunes Allemands, juifs et communistes ont trouvé refuge. Dans les deux cas, je vous assure, c'est une totale réussite. Alors, il s'agit de « Visa pour l'éternité » par Laurence Coucchio aux éditions Albin Michel et d'un « Kibbutz en Corrèze » par Jean-Luc Aubarbier aux éditions Terre de France. Alors autre chose, Téhéran a remporté le prix de la meilleure série dramatique lundi au prestigieux International Emmy Award 2021. Le thriller israélien produit par le diffuseur public Cannes et repris mondialement par Apple TV+, a devancé la série indienne Aria, l'émission chilienne El Presidente et le programme britannique There She Goes dans la catégorie meilleure fiction. Téhéran n'est pas seulement une série d'espionnage, il s'agit aussi de comprendre l'humain qui se cache derrière votre ennemi. C'est ce qu'a déclaré la productrice exécutive Dana Eden dans son discours de remerciement lors de la cérémonie de remise des prix à New York. Elle a noté que les acteurs et l'équipe de la série comprenaient des Israéliens et des Iraniens et nous avons découvert que nous avons beaucoup en commun. Je pense que cela donne un espoir pour l'avenir et j'espère que nous pourrons marcher ensemble, les Iraniens et les Israéliens, à Jérusalem et à Téhéran, en amis et non en ennemis. L'émission, qui a été diffusée pour la première fois en Israël en juin dernier et diffusée sur Apple TV en septembre dernier, raconte en fait l'histoire d'un jeune agent du Mossad sous couverture à Téhéran en mission pour aider à préparer le terrain pour une frappe aérienne de Tzahal sur un réacteur nucléaire iranien. L'émission, acclamée par la critique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Israël, met en vedette Niv Sultan dans le rôle de Tamar, le jeune agent du Mossad, aux côtés de Navid Negaban, Menashe Noy et Shaun Toup. Il a été écrit et créé par Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn. La deuxième saison de la série est actuellement tournée à Athènes, où l'actrice nominée aux Oscars Glenn Close a rejoint la série. Israël n'avait auparavant remporté que 2 International Emmy Awards, la meilleure comédie en 2018 pour la série Nefsu et la meilleure comédie en 2010 pour l'émission Ramzor. Par ailleurs, l'acteur israélien Roy Nick, qui a été nominé pour le meilleur acteur pour son rôle dans la série télévisée israélienne Normali, a perdu face à David Tennant dans le programme britannique Death. Les autres nominés étaient Nawazuddin Siddiqui dans une série indienne et Christian Tapan dans une émission colombienne. Parlons maintenant du succès israélien à l'ONU. Une proposition de la représentation israélienne à l'ONU a en effet recueilli mardi le vote favorable de 140 États et 135 États se sont associés à ce projet. Présenté par l'ambassadeur Gilad Erdan, ce programme propose l'emploi de technologies agricoles ultra-modernes dans les pays en voie de développement et principalement dans les zones où règne la sécheresse ou la famine. Israël est à la pointe mondiale en ce domaine également. Le texte sera soumis au mois de décembre à l'Assemblée générale. Après le vote, le représentant iranien, justement, a déclaré que son ambassadeur n'avait pas voté car son État ne reconnaît pas, je cite, un État qui s'appelle Israël. L'ambassadeur d'Israël a déclaré « Comme Startup Nation, leader mondial dans l'innovation agricole, Israël est fier de se tenir à la pointe d'une telle décision. L'agriculture n'apporte pas seulement les aliments sur notre table, elle procure des moyens de subsistance à d'innombrables agriculteurs à travers le monde et nous avons vu ces dernières années à quel point ces domaines sont vulnérables. La faim et la pauvreté ont augmenté et les changements climatiques extrêmes menacent le futur de nombreux agriculteurs. » Ce sont donc des défis qui ont une influence sur nous tous et nous avons la responsabilité de nous mesurer à eux. Cette décision prise aujourd'hui propose donc de s'occuper sérieusement de ces difficultés en utilisant le potentiel de l'innovation. Toutefois, cette proposition n'a pas bénéficié d'un consensus. Un certain nombre de pays ont préféré la haine et la petite politique à l'amélioration de la situation de l'espèce humaine et aux besoins de leurs citoyens. Ils ont préféré voter contre la proposition uniquement parce qu'elle émanait de l'État d'Israël.
Bin ich jung geblieben, es hat die Neid mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahre gehabt, in der Fremd weit von Mames Augen. Hat in Schmutz mich die Gast erzeugen, geworden ist von mir ein Beuleriat. Ich bin ein Fremd, der fähigste Marwicher, ein größer Künstler, harbet leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, bis und teut, a reinen Füße, verlackenen a Bräut. Oi, oi, ich fahr nicht auf Marken, wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mich heie, wenn ich tappe, sa Magnat. Ich bin na Vreme, gora Voileriat. In der Fremd nicht gehat zum Leben, gebeten Bräut an Ormer pflegt noch geben, nur jene Leid, wo sennen Tomit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn. Es wächst ein Ganef, es ist mir Kuhem geworden. Ein Ganef bin ich nur ein Voileriat. Ich bin ein Vreimel, der fähigste Marwicher. Ein größer Künstler, harbet leicht und sicher. Ajata kleiner, a rein in Kutschement. A reusa massig, a seltener Talent. Oi, oi, ich war nicht auf Marken, wie jene proste Jacken. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich hab lieber Menschen, a milden, a naschbrat. Ich bin a Vreme, Gora Voileriat. Scheu nicht lang wird das Spiel gedeuern. Krank von Klepp, Gicht von Füße meuern. Nur ein Bakosch, ich wollt, als sei gewollt. Noch mein Teut in a Tag ertrieben. So läuft mein Mazewe stehen geschrieben. Mit euch jetzt Größe und von Gold. Da liegt der Vreme, der fähigste Marwicher. Ein Mensch, ein größer Gewein, wollt von ihm sicher. Ein Mensch, ein feiner, mit Herz, mit der Gefühl. Ein Mensch, ein reiner, wie Gott alleiner will. Oi, oi, wenn ich berühmt wollt, gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt, die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt aber Himmel jener Weileriat. Mames Augen, wenn's wollt, die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt aber einmal jener Weileriat.
Merci Chava Alberstein pour cette jolie chanson. Alors sachez qu'Israël va moderniser l'armée des Philippines. En effet, le gouvernement israélien va partager certaines de ses technologies et systèmes militaires sophistiqués avec les forces armées des Philippines, en tout cas selon l'ambassadeur d'Israël à Manille, Monsieur Ilan Flus. Lors d'un forum tenu hier, l'ambassadeur a déclaré que la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux nations reste forte. Il a également mentionné qu'il existe certains systèmes systèmes et technologies qu'Israël peut partager pour aider l'armée philippine dans ses efforts de modernisation. L'ambassadeur Flous a déclaré que certaines grandes entreprises de défense israéliennes pourraient donc présenter leurs technologies de pointe et leurs meilleures pratiques à l'armée philippine sans fournir toutefois de détails supplémentaires. Entre-temps, l'ambassadeur a exprimé sa conviction que le partage des technologies militaires avec les Philippines pourrait aider le pays à faire face à une grande variété de problèmes, y compris le terrorisme. Cela fait partie de ce que j'ai dit, nous avons des échanges à différents niveaux pour apporter différentes technologies et systèmes qui peuvent être utilisés par la marine, l'armée de l'air et les gardes-côtes philippins. Nous sommes donc en contact avec les différentes branches militaires ici. Mais malgré la volonté d'Israël de partager sa technologie militaire avec les Philippines, l'ambassadeur a précisé que son pays ne pouvait pas se permettre de vendre des armes et d'autres équipements militaires de grande puissance aux Philippines. Il a expliqué qu'Israël est un petit pays qui a besoin d'un grand arsenal pour maintenir ses capacités de défense, surtout dans le contexte des tensions croissantes avec l'Iran. Toutefois, Israël s'engage à poursuivre les discussions et à maintenir un accord de coopération en matière de défense de grande envergure avec la nation d'Asie du Sud-Est. Les deux pays travailleraient actuellement sur le projet de l'accord. Alors, suite au fameux accord d'Abraham, je voudrais vous parler d'une première coopération humanitaire entre Israël et le Bahreïn. L'ambassadeur du Bahreïn en Israël, parce qu'il y a maintenant un ambassadeur du Bahreïn en Israël, M. Khaled Youssef Al-Jalahma, a visité la semaine dernière la clinique palestinienne de Save a Child Heart, SACH, en Israël, où des enfants de Gaza et de l'autorité palestinienne sont traités par les médecins bénévoles de SAC. Après sa visite, M. Jalahma a déclaré « Nous allons examiner la coopération humanitaire entre Israël et Bahreïn pour la première fois. Save a Child's Heart, basé au nouvel hôpital pour enfants Sylvan Adam à Houlon, donc en Israël, s'efforce de faire venir chaque année en Israël des centaines d'enfants du monde entier pour y subir des traitements cardiaques tout à fait vitaux. Au cours de sa visite, l'ambassadeur était accompagné de l'ambassadeur d'Israël au Bahreïn, M. Ethan Naher, et a rencontré de nombreux parents palestiniens et leurs enfants qui sont traités précisément à la clinique et viennent une fois par semaine pour une évaluation et un traitement. M. Jalahma a également rencontré le président de Save a Child Heart, Yoram Cohen, et son directeur exécutif, Simon Fischer, pour discuter de la future coopération humanitaire entre les deux pays, et cela depuis la signature des fameux accords d'Abraham. À l'issue de la réunion, l'ambassadeur Jalahma a visité l'hôpital pour enfants où il a rencontré l'équipe médicale de SAC, dont trois médecins palestiniens de Gaza et deux autres médecins de Zambie et d'Éthiopie qui participent au programme de formation de Save a Child's Heart. La visite s'est terminée par une rencontre tout à fait émouvante de l'ambassadeur avec des dizaines d'enfants originaire d'Irak, du Myanmar, de Zambie, d'Éthiopie, d'Ouganda et du Nigeria, après avoir reçu des soins médicaux salvateurs en Israël. L'ambassadeur Jalahma a déclaré « J'entends beaucoup parler de l'activité humanitaire de Save a Child's Heart et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour voir le travail de première main. J'espère que c'est le début d'une relation très fructueuse entre Bahreïn et Israël dans le domaine médical. J'ai entendu parler du travail que vous faites dans le monde entier. Travailler avec vous est devenu possible grâce aux accords d'Abraham et nous cherchons à construire sur cette base. Ce sont ces types de programmes qui feront de notre monde un endroit meilleur. » Quant à M. Fischer, il a conclu « Nous sommes enthousiastes à l'idée de rencontrer l'ambassadeur et de lui présenter les activités humanitaires israéliennes en faveur des enfants atteints de maladies cardiaques du monde entier dans un désir et une foi sincère d'œuvrer pour un monde meilleur. Les accords d'Abraham ont ouvert de nombreuses possibilités d'étendre les activités de l'organisation dans les pays arabes et en Afrique et nous espérons que des collaborations fructueuses en résulteront afin de sauver la vie de davantage d'enfants. » Enfant. Fin de citation.
J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, c'est l'être de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour eux ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Pleurait son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui reposait sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guettait. Les gens sont si esservelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui te rendent. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Les femmes tombent sous l'orage, demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah.
Et vous aurez bien sûr reconnu Salvatore Adamo avec Inch'Allah. Et précisément, l'Institut du monde arabe à Paris poursuit sa trilogie consacrée aux religions monothéistes dans le monde arabe avec une expo tout à fait exceptionnelle dédiée à l'histoire des communautés juives d'Orient. Cette exposition a débuté le 24 novembre et se terminera le 13 mars. L'exposition Juifs d'Orient portera un regard inédit sur l'histoire plurimillénaire des communautés juives dans le monde arabe. Une approche chronologique et thématique déclinera les grands temps de la vie intellectuelle et culturelle juive en Orient et révélera les échanges prolifiques qui ont façonné les sociétés du monde arabo-musulman durant des siècles. Du pourtour méditerranéen jusqu'à l'Euphrate, en passant par la péninsule arabique, l'exposition explorera les multiples facettes de la cohabitation entre juifs et musulmans, des premiers liens tissés entre les tribus juives d'Arabie et le prophète Mohammed, à l'émergence des principales figures de la pensée juive durant les califats médiévaux à Bagdad, Fès, au Caire ou encore à Cordoue, de l'essor des centres urbains juifs au Maghreb et dans l'Empire ottoman, aux prémices de l'exil définitif des juifs du monde arabe. Le récit de cette coexistence tour à tour féconde ou tumultueuse témoignera du rôle de chacun dans l'enrichissement de la culture et de la religion de l'autre, qu'il s'agisse de la langue parlée, des coutumes, de l'artisanat ou encore de la production scientifique et intellectuelle. À la lumière de cette mise en perspective historique inédite, l'exposition s'attachera à faire rayonner et à préserver la mémoire d'un patrimoine d'une formidable richesse. Grâce à des prêts d'œuvres issus de collections internationales de France, d'Angleterre, du Maroc, d'Israël, des États-Unis ou d'Espagne, l'IMA présentera des œuvres inédites et d'une grande variété de formes, archéologie, manuscrits, peintures, photographies, objets liturgiques et du quotidien, et enfin installations audiovisuelles et musicales. Des actions de médiation ambitieuses seront menées à destination du public, en particulier auprès des jeunes générations. Une publication scientifique et des conférences en lien avec l'exposition viendront approfondir ces thématiques passionnantes. Enfin, une programmation de concerts, spectacles et projections de films mettra à l'honneur le patrimoine immatériel des Juifs d'Orient. Tout cela à voir donc à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'au 13 mars 2022. Et on parle cinéma à présent. Vous connaissez tous et toutes l'actrice Helen Mirren. Dans une image publiée lors du tournage à Londres, cette actrice oscarisée, âgée aujourd'hui de 76 ans, est méconnaissable, avec des cheveux gris hirsutes et un costume ample, alors qu'elle endossait le rôle de Madame Golda Meir, première femme première ministre d'Israël, dans le prochain biopic de Guy Native. Meir est un film à suspense qui relate les décisions controversées prises par la politicienne au plus fort de la guerre de Kippour en 1973 et qui a vu son pays subir d'énormes pertes dans une bataille contre plusieurs États arabes. Sur l'image, on peut voir Helen Mirren portant un chemisier bleu foncé et une jupe vermante avec une tasse de café et une cigarette à la main. L'actrice acclamée a arboré des cheveux gris et une expression pensive à un moment où son pays était plongé dans une grande tourmente. Meir sera écrit par Nicholas Martin, qui a déjà écrit le film fantaisiste Florence Foster Jenkins, et sera réalisé par Natif, qui a déjà dirigé le court-métrage oscarisé Skin. Le film mettra également en vedette Cammy Cotin dans Call My Agent, Rami Heuberger dans Schindler List, Lior Ashkenazi pour Foxtrot, Ellie Piercy, Black Mirror, Ed Stoppard dans Judy et Rotem Kainan. Cotin jouera le rôle de l'assistant personnel de longue date de Golda Meir et la star israélienne Ashkenazi, celui de son chef de cabinet. c'était Sarit Haddad. Sachez que la maison de vente aux enchères Kedem a annoncé dimanche la mise en vente d'une lettre manuscrite du physicien Albert Einstein à un ami, dans laquelle il mettait en garde contre l'antisémitisme qui, selon lui, sévissait dans le monde universitaire américain. Déjà, vous voyez. La missive est manuscrite, écrite en allemand, mais traduite en anglais. Elle date de 1936. Le célèbre scientifique y met en garde son ami Bruno Eisner. Ce pianiste juif d'origine autrichienne vit en effet à New York. « Je ne suis pas informé d'un poste vacant, même lorsqu'il relève de ma propre spécialité », lui confie Einstein. Il évoque l'antisémitisme qu'il subit dans les universités américaines et qui, écrit-il, ne prend jamais la forme d'un discours ou d'une action brutale, mais plutôt se mijote d'autant plus intensément sous la surface. Einstein évoque aussi l'histoire d'un de ses assistants. « Je n'ai qu'à vous dire que mon jeune assistant avec qui j'ai travaillé avec succès pendant 2 ans, s'est installé en Russie il y a 2 mois, car il n'y avait aucune opportunité pour lui ici. Il a écrit cette lettre alors qu'il vivait à Princeton, dans le New Jersey. Elle pointe l'antisémitisme auquel sont confrontés les Juifs vivant en Amérique à l'époque. Bien qu'incomparable en échelle avec l'Europe, ils subissent aussi, outre-Atlantique, marginalisation et discrimination. L'antisémitisme aux États-Unis a été largement éclipsé par la Shoah et ses millions de victimes en Europe. Selon la directrice de Kedem Auction House, qui met cette lettre aux enchères, elle est intéressante parce qu'elle met en lumière un aspect moins connu de la vie d'Albert Einstein aux États-Unis. Meron Eren estime que cette missive est un autre rappel important que les sociétés libérales ne sont pas à l'abri de cette maladie et que nous devons toujours rester vigilants contre toute forme de racisme. Einstein et sa théorie révolutionnaire de la relativité a été la cible des nazis qui ont rejeté sa théorie comme de la physique juive. Il a promis de ne jamais retourner dans son pays natal, l'Allemagne, et a même renoncé à sa citoyenneté. Il a obtenu la nationalité américaine en 1940.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall.
wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing.
Notre tombola de l'année dernière, Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer. Un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels Photographie, un iMac 24 pouces, un iPhone 13, une initiation au golf des 7 fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetweb.fr/super-tombola-radio-judaïka. Prix du billet 25€, prix d'un carnet 200€. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance!
Et voilà, cette émission découverte est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Quant à moi, je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine, même heure, même chaîne. N'oubliez pas d'allumer la première bougie de Hanouka. Ce sera ce dimanche soir. Alors, Chag Sameach à tous et à toutes. Et je vous souhaite évidemment également un Shabbat Shalom, un Guide Shabbos et donc à la semaine prochaine.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie. Avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse.